le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste.
D'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans, la tête haute.
Ce soir, on vous propose d'écouter la lecture de la brochure qui s'intitule « À la lisière du bocage » et qui a été écrite par des habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour raconter la genèse du bocage nantais. Bien que nous ne partageons pas toujours l'ensemble des analyses produites par ces auteurs, cette brochure présente l'intérêt de raconter comment les communautés paysannes, dans les siècles passés, ont mené une lutte constante contre l'accaparement des communaux par les seigneurs ou le clergé. Et comment le paysage bocager matérialise finalement le règne de la propriété privée contre les usages communs. Le texte fait des allers-retours entre ces luttes du passé et l'actualité de la lutte contre l'aéroport, resituant les initiatives d'occupation de terres sur le fil conducteur d'une longue histoire de lutte paysanne. Si nous parvenons aujourd'hui l'écho persistant des jacqueries et des communaux, des révoltes et des insurrections d'hier, c'est parce que nous habitons les lisières d'un bocage ingouvernable, celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est parce que ces expériences passées entrent en résonance avec nos vies, avec nos trajectoires actuelles, et que nous y puisons des pratiques et des critiques, des gestes et des imaginaires collectifs. Ces histoires, nous voudrions les faire entendre, les faire vivre, les diffuser, pour qu'elles infusent le mouvement et deviennent communes. Les traces que ces expériences de lutte passée laissent derrière elles, souvenirs, mythes et récits, marquent le territoire même. Habiter quelque part, c'est incorporer des bribes de mémoire collective qui vivent en nous, qui hantent nos luttes comme nos rêves. Pour nous, qui habitons, défendons et cultivons en commun ce bocage, ces restes sont des indications pour naviguer dans le tumulte du mouvement de lutte contre l'aéroport et son monde. Ils sont des repères pour s'y projeter, au-delà de l'urgence activiste qui cherche à nous capturer dans le présent, nous enferme dans le court terme. À la lisière du bocage s'expérimentent de nouvelles formes de communisation des terres. Alors que le mouvement de lutte contre l'aéroport a gagné en puissance et en intensité depuis qu'il a su défendre le bocage pendant l'opération César, se pose désormais en pratique la question d'usage commun d'un territoire qui puisse s'affranchir des logiques gestionnaires, policières et marchandes qui président à son aménagement. Raconter la genèse du bocage, parcourir les récits de lutte paysanne pour la défense des communaux, c'est glaner de quoi nourrir des perspectives communes qui s'ébauchent ici et maintenant sur la ZAD. Le bocage est une mosaïque de prairies, de champs enclos séparés par des haies et des talus. Le bocage n'est pas une image de carte postale capturée par l'objectif du touriste urbain. Il n'est pas un paysage naturel, mais une configuration de l'espace physique issue d'un rapport de force territorial. Raconter le bocage, sa construction, puis sa destruction, signifie pour nous raconter la matérialisation dans le territoire de l'hégémonie d'un certain ordre politique. Raconter le bocage signifie donc rompre à la fois avec l'idée d'écologie et avec celle de nature. C'est la paysannerie comme forme de vie collective qui a façonné ces landes et ce bocage. Le bocage est une sculpture collective de la paysannerie. Le reste d'une forme de vie anéantie par la marchandisation et l'aménagement du territoire. Loin de nous, l'idée d'une nature à protéger, le bocage n'est pas un milieu naturel. L'idée de nature dans la bouche du pouvoir et de sa fausse contestation devient capital ou patrimoine à préserver, valoriser, protéger. Cette conception de la nature nous enferme dans l'illusion neutralisante d'une essence, d'un toujours ainsi. Elle légitime toutes les mutilations de nos libertés, enclôt le champ des existences possibles. L'ordre établi n'a rien de naturel, c'est une toile de pouvoir et de dispositifs, d'identité et de normes socialement et historiquement produits que nous pouvons collectivement bouleverser. Pour nous, défendre ce bocage, ce n'est pas défendre la nature, et encore moins préserver un milieu, mais défendre un territoire, un rapport au monde. L'écologie est désormais parfaitement intégrée dans les stratégies du pouvoir pour assurer sa propre production. Elle articule le pire de l'idée de progrès et le pire de l'idée de nature. Elle fait commerce de la préservation de l'environnement, produit des marchés, compensation écologique, dépollution, cabinet d'experts, mais aussi des infrastructures, portiques, écotaxes, poubelles avec puces RFID intégrées, centres de tri, éoliennes industrielles, et produit également des lois, des normes, des règlements. Et bien sûr, une représentation politique, une bureaucratie d'État et des polices, comme la police de l'eau ou la police de la nature. Ni ressources à exploiter, ni monuments naturels à muséifier, ni paysages remarquables, le bocage est un territoire à défendre, un monde à habiter. Le bocage n'est pas un paysage immuable, sauvage. Considérer le bocage comme territoire, c'est le considérer comme une construction politique. Le concept de territoire rompt avec l'idée d'une nature, d'un environnement qui nous serait extérieur. Pour avancer dans la définition du territoire, un extrait est donné d'un ouvrage de Miguel Amoros qui s'intitule « La lampe hors de l'horloge, élément de critique anti-industrielle ». Le territorium, dans le droit romain, était le cadre d'influence d'une communauté politique, un regroupement d'hommes unis par le droit. Dans un sens strict, c'était un terme proche de communal. L'agère, le champ, et le celtus, l'espace sauvage, joint avec le populus, l'agglomération, et l'urbs, l'enceinte urbaine, constituait la ville proprement dite, dans un sens plus large, proche de l'interland, son aire d'influence culturelle et économique. Au 7e siècle, quand les municipes romains avaient littéralement disparu, le mot « territoire » faisait seulement référence à une terre travaillée par la charrue et délimitée par des sillons. Cependant, une nouvelle structure sociale, la commune villageoise, produit et cause d'un mouvement de défrichage provoqué par la disparition de l'État et de sa tenaille fiscale, fondée sur l'idée de territoire commun et non d'origine commune, apparaîtra durant le Haut Moyen-Âge et se consolidera au cours des siècles suivants. En France, elle s'appellera « finage » pour désigner le territoire où s'établira la commune rurale, incluant la paroisse, les maisons, les chemins, les champs et les bois. Elle équivalait plus ou moins au municipe, au mieux à la juridiction, puisqu'elle contenait implicitement le droit à s'auto-administrer. En Catalogne, ce sera l'universitas, au Pays Basque, l'ante iglesia, et dans d'autres régions ibériques, le concejo. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, quand les villes européennes fleurissent à nouveau, le terme territoire retrouve sa signification de terrain construit, labouré ou inculte, défini par des bornes et limites qui incluent la cité. Mais la traduction la plus juste de la notion de territoire serait la communauté de villages et de terres. Le territoire n'est donc pas seulement l'espace géographique, il est l'espace de l'homme, de la nature transformée par l'activité humaine. Culture signifiant littéralement nature travaillée et le mot cultiver à la même racine. C'est donc l'espace de la culture et de l'histoire, l'espace social puisqu'il contient, produit et développe les rapports sociaux. Marx appelle la nature le corps inorganique de l'homme, en laissant entendre que le genre humain ne se conçoit pas sans la nature dont il fait partie et avec laquelle il entretient un métabolisme spécial. Le territoire est donc la scène de ce métabolisme.
Voilà pour la citation de Miguel Amoros.
À mesure qu'est marchandisée chaque parcelle du territoire, à l'heure où villes et campagnes sont anéanties par la colonisation métropolitaine, la réappropriation des gestes paysans qui ont façonné le bocage ou des gestes ouvriers qui ont édifié la ville sont aujourd'hui pour nous des armes dans l'édification d'infrastructures de l'autonomie, dans la construction de territoires ingouvernables, de nouvelles formes de communes. La production de la ville ou du bocage comme territoire furent l'objet d'une guerre. La genèse du bocage comme celle de la métropole est celle de la territorialisation d'un rapport de pouvoir.
ni le paysan qui façonne le bocage, ni l'ouvrier du bâtiment qui construit le complexe métropolitain ne sont véritablement libres de leurs gestes. Ils ne façonnent pas le territoire selon leurs propres besoins et leurs désirs, mais selon un ordre qui s'impose à leur existence. Le bocage est un territoire que sculptent des gestes communs. Creuser des fossés, monter des talus, planter et entretenir des haies, des prairies, des céréales et des vergers, construire des fermes, faire pâturer des bêtes, fabriquer ses outils, son alcool, ses armes. Mais si nous y décelons les restes d'espaces d'autonomie aujourd'hui quasiment anéantis, nous refusons de sacraliser le bocage, ses mares, ses prairies, ses haies, sa faune et sa flore, comme nous refusons de sacraliser la paysannerie. Nous n'éprouvons pas le besoin d'idéaliser un territoire pour le défendre, ni d'idéaliser une forme de vie pour qu'elle nous traverse. La question pour nous, qui voulons habiter ce bocage, est de déceler ce que sa genèse révèle de restes à partir desquels faire sécession avec la métropole. La création du bocage, comme nous appellerons ici « embocagement », correspond à la fin des communaux et à l'aménagement des landes. Les haies que nous longeons sans cesse et dont nous avons l'usage, et la cueillette des murs à l'embuscade des gendarmes, ces haies furent d'abord une forme d'enclosure. Elles sont un dispositif de délimitation et d'attribution de parcelles à des individus ou groupes en contrepartie d'une portion de récolte ou d'une somme d'argent. Les haies furent donc d'abord un marqueur végétal de la propriété foncière. Le dessin géométrique d'une parcelle agricole ne doit rien au hasard. C'est l'une des mille manières pour le pouvoir de gouverner le territoire. Le bocage et découpage, segmentation de l'espace résultant de la privatisation des communs. Les seigneurs et les abbayes, l'appareil d'État et le pouvoir économique privatisent, ou plus précisément marchandisent les communaux en monnayant leurs usages. La construction du bocage correspond donc à une rupture dans le rapport au territoire. À l'espace lisse, des clos et communs de la lande se substituent au fil des siècles l'espace strié, segmenté, privé, en enclos du bocage. L'embocagement correspond à la marchandisation des communaux contre les usages collectifs et les coutumes des communes villageoises. Le geste inaugural de cette conquête du territoire est le bornage. Alors il y a une citation de Jean Nicolas qui a écrit « La rébellion française ». Pour protéger leurs biens forestiers et leurs terres vannes, les seigneurs réactivent le droit de triage qui leur accordait la jouissance exclusive du tiers des terrains appartenant aux communautés. D'où bien sûr une avalanche de contestations, de recours en justice et de nouveaux désordres, car partout les villageois tendent à faire l'amalgame entre usage et propriété. Voyez, en 1727, l'affaire survenue sur les terres de Loup de Lorraine, prince de Ponce et de Mortagne-Saintonge. Les géomètres, venus pour les bornages, virent fondre sur eux 60 ou 80 individus, avec des fourches ou des bâtons, privés de leur matériel d'arpentage, leurs documents déchirés ou volés. Ils se sauvèrent avec bien de la peine, à cause des meurtrissures, pris en chasse par d'autres furieux venus de toutes parts. La nuit suivante, la lande se mit à flamber en divers endroits. Alors ces vieux récits de chasse aux géomètres font écho aux luttes passées contre le remembrement, mais aussi aux balades bocagères de ces dernières années sur la ZAD, qui nous vit arracher joyeusement bornes et piquets.
Il ne s'agit plus de briser à la masse des bornes de pierre inamovibles, mais d'arracher à la pelle les petites bornes de plastique orange. À travers les âges, contre les mêmes dispositifs, des gestes communs se répondent. Car c'est la même opération du pouvoir qui est à l'œuvre. Les bornes, les limites, le cadastre dessinent un quadrillage qui vise à représenter le territoire pour mieux le contrôler, pour mieux le gouverner, pour un dense maillage de dispositifs. Faire du bocage, c'est borner le territoire, le segmenter contre les usages collectifs qui s'y déploient, en fonction des titres de propriété, dans une logique de valorisation marchande. C'est dans ce patientissage d'un réseau filé qui quadrille l'espace que réside peut-être l'art de gouverner. Alors, il y a une petite citation de Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux, Capitalisme et Schizophrénie 2. Paul Virilio montre comme l'Empire romain impose une raison d'état linéaire ou géométrique qui comporte un dessin général des camps et des places fortes, un art universel de borner par les tracés, un aménagement des territoires, une substitution de l'espace au lieu et aux territorialités. Faire du bocage, c'est donc d'abord mesurer l'espace, l'enclore et le délimiter en parcelles, puis le défricher et faire de ces terres humides une rente foncière, c'est-à-dire la source d'un profit fondé sur le principe de propriété privée, une ressource quantifiée que l'on se répartit. Les landes communales qui précédèrent le bocage de la ZAD étaient, comme bien d'autres zones humides, marais, bois ou forêts, réputées difficilement valorisables. Pourtant, ces terres communales faisaient l'objet d'usages collectifs, immémoriaux par la communauté villageoise, parcours, veines parture, cueillette, chasse, pêche, etc. L'absence de valorisation marchande de ces landes par le pouvoir politique, économique et religieux laissait en effet le champ libre à un foisonnement d'usages collectifs essentiels à l'existence de la paysannerie comme forme de vie.
Ces terres vaines et vagues étaient délaissées par le pouvoir. C'est précisément la raison pour laquelle pouvaient encore s'y déployer ces usages communs du territoire, comme l'illustre cette citation de l'ouvrage « Propriété et usage collectif », l'exemple des marais de Redon au XVIIIe siècle par Sclaren Squiller.
Au XVIIIe siècle, en Bretagne, les espaces laissés aux usages collectifs sont immenses. Selon le mémoire de l'intendant des Gallois de la Tour, les terres incultes n'occupaient pas moins de 42,7% de la superficie totale de la province. Elles se distinguent des terres cultivées par leur absence de clôture et, outre les terres non cultivables privées et closes, les droits d'usage s'exercent sur l'ensemble d'entre elles. La coutume de Bretagne attribue la propriété des communaux aux seigneurs qui laissent ces terres vaines et vagues à leurs vassaux. Les usages collectifs, même s'ils sont pris depuis longtemps, ne constituent qu'une propriété précaire et de pure tolérance.
Alors une autre citation, extraite d'un guide technique à l'usage des collectivités, portant le titre « Eaux et rivières de Bretagne, protection, entretien et valorisation du bocage ».
Le bocage a été construit par de nombreuses générations de paysans et de propriétaires, et constitue à l'origine une limite de parcelle, une clôture ou encore un bord. Le bocage, tel que nous le connaissons actuellement, est apparu timidement en Bretagne à la fin du Moyen-Âge. Les talus se construisent au fur et à mesure que la population se densifie et que s'accentue la spécialisation de l'agriculture vers l'élevage. On distingue deux phases de bocagisation, une précoce vers le XIIIe-XIVe siècle et une plus tardive vers le XVIIIe-XIXe siècle et vers le début du XXe siècle. Au cours de ces périodes, les communaux sont partagés et enclos et les bois sont défrichés. Le partage des landes a été suivi, en général, de l'édification de clôtures, assurées par des haies vives sur talus. La création et l'entretien du bocage étaient officiellement reconnus et encouragés. À la disparition des communaux, les métayers et les propriétaires se sont accordés pour planter des haies leur permettant de disposer d'une production de bois, de fruits et de fourrage. Le mouvement de plantation et de création de talus s'est globalement poursuivi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Thank you.
Bretagne médiévale, le foncier s'organisait autour de la maxime « Nulle terre sans seigneur ». Sous l'Ancien Régime, le territoire de l'actuelle commune de Notre-Dame-des-Landes et de ses environs appartenait pour l'essentiel aux seigneurs de Rohan, au domaine royal, à divers aristocrates et à des roturiers pour une part grandissante au fil du temps. Bien qu'en théorie, c'est-à-dire en droit, toutes les terres appartenaient à un seigneur ou à une abbaye, ces derniers ont longuement toléré les usages collectifs de ces terres vaines et vagues par les communautés villageoises. Cette tolérance est en réalité le pur produit d'un rapport de force entre le pouvoir féodal et les habitants, entre l'appareil d'État et la commune comme forme d'auto-organisation villageoise. Dès qu'ils le purent, noblesse et clergé prirent l'initiative d'un accaparement des communaux, notamment par les affaiagements, qui consistaient à louer une partie du domaine seigneurial contre le versement d'une redevance annuelle proportionnelle à la surface, et le triage, qui leur permettait de s'accaparer arbitrairement un tiers des terres communales. Dans les environs de Notre-Dame-des-Landes, les premiers actes d'affaiagement datent de 1549. Pour les possédants, il s'agissait d'une stratégie pour tirer profit d'un usage de la terre qui auparavant était libre. Cette redevance était souvent payée en nature, avant que ne se généralise l'usage de l'argent comme médium de la totalité des rapports sociaux. Il n'y a qu'un pas entre le moment où l'usage de la terre se paie et la colonisation par la marchandise des moindres parcelles de nos territoires, de nos existences, de nos corps, de nos vies. Mais parfois, le rapport de force permet aux communes villageoises de tordre le cadre juridique des afféagements, de les retourner contre les seigneurs afin d'y inscrire les usages collectifs coutumiers.
Quand ce n'est pas le cas, les afféagements provoquent une avalanche de recours et de contestations, comme cela est démontré dans « L'usage des communs à Notre-Dame-des-Landes d'hier à aujourd'hui » par François de Beaulieu. On note d'ailleurs qu'il existe des cas d'afféagement collectif par lesquels il est possible de garantir la jouissance commune, tel celui accordé en 1774 par le duc de Rohan à 60 laboureurs pour utiliser ensemble les landes des Grands Mortiers à Éric, qui resteront vagues à perpétuité. En effet, la question se pose de façon beaucoup plus conflictuelle au XVIIIe siècle quand, par vagues successives associées aux décisions facilitatrices du roi et du Parlement de Bretagne, des opérations plus ambitieuses sont engagées et mettent en cause l'usage collectif des landes. De nombreux procès sont engagés et parfois gagnés, imposant le déplacement de certains afféagements, trop gênants pour les habitants des villages voisins. Des procédures collectives remettent même en cause de vieux afféagements conclus depuis 40 ans au nom d'actes passés 100 ans plus tôt. On a le cas en 1778 pour des landes autour de la Rolandière et de la Villeneuve. Quand le problème est trop brûlant, les paysans s'assemblent et mettent à bas de nouveaux talus, comme à Éric en 1773.
Comme les seigneurs, les monastères ont joué un rôle central dans l'anéantissement des communs et dans la genèse du bocage de Notre-Dame-des-Landes, brandissant eux aussi des titres de propriété contre les usages des habitants.
Michel Tarin raconte cela dans un passage du livre « C'est quoi cette arnaque ?»
Quand mes arrière-arrière-arrière-grands-parents sont arrivés, il n'y avait rien ici, c'était les landes de Muson. Après, ces landes ont été pâturées par les communaux. Les fermiers de l'époque, les bourgs de la Paclay, Treillières, Notre-Dame-des-Landes, mettaient les animaux en estive l'été sur ces terres, comme ça se fait en montagne. En 1840-1850, les communaux ont été abandonnés pour installer des exploitations agricoles. Ce sont les moines de Blain qui ont engagé le défrichage et la mise en place des exploitations en 1830 et 1860. Les moines n'étaient pas là pour cultiver. Ils participaient, eux aussi, à une entreprise d'aménagement du territoire. Détruire les bois, les forêts, les lisières, refuges des marginaux, des sorcières et des brigands, lieux de culte mythiques, arbres, montagnes et ruisseaux sacrés. Anéantir les cultes païens, les médecines occultes. Ces terres vagues, marais, forêts et lisières, ces espaces qui laissaient libre cours à l'imaginaire comme aux usages collectifs, nous les qualifions de territorialité communiste, parce qu'ils sont les territoires d'une libre jouissance de biens communs, matériels et immatériels. La destruction des communaux n'est qu'une facette du long processus de marchandisation du territoire. Ici comme ailleurs, l'appropriation capitaliste du territoire a commencé par les terres les plus rentables, avec les rendements en céréales les plus élevés. Puis de fil en aiguille, la propriété foncière en est venue à couvrir une part de plus en plus significative du territoire, s'étendant aux terres incultes, aux marais et aux zones humides, aux montagnes, bois et forêts, aux terres vaines et vagues.
Sur ce sujet, une étude d'un naturaliste en lutte contre l'aéroport, François de Beaulieu, apporte d'autres éléments dans l'usage des communs à Notre-Dame-des-Landes d'hier et d'aujourd'hui.
Ce ne fut pas bien sûr un mouvement continu, mais l'appât du gain, les impératifs de la survie pour beaucoup, et les désordres aidant, la forêt bretonne était réduite à sa plus simple expression et en fort mauvais état au début du XIXe siècle. 5% du territoire contre 13% aujourd'hui. Ainsi, l'ancienne forêt d'Éric est, selon M. Gachignard, encore largement composée, au milieu du XVIIIe siècle, de terres vaines et vagues, landes, bruyères et pâtures. Les défricheurs, moines ou agriculteurs, devaient de plus acquérir une connaissance du terrain et repérer les espaces les plus favorables aux cultures, et ceux dont il ne fallait pas attendre trop. De manière générale, les fermes ou les villages se sont installés sur les terrains les plus riches, et la trame bocagère s'est étendue à partir du noyau initial, où l'on avait mis en défend un premier jardin et un premier champ. Les landes occupent finalement les confins du territoire.
Attaquer les communaux, c'est priver les habitants d'une forme non marchande de subsistance pour les contraindre au salariat en les dépossédant du territoire duquel ils tirent, précisément, les moyens de leur subsistance. La première vague d'empocagement au XIIIe et XIVe siècle correspond à la naissance du métayage, puis du fermage, à l'apparition des premiers ouvriers agricoles, dits brassiers ou manœuvriers.
Yves Deloise et Georges Lapierre apportent quelques compléments d'information dans leur livre « L'incendie millénariste ».
Par-delà les hostilités endémiques portant sur les redevances, les luttes paysannes du bas Moyen-Âge s'attaquèrent de façon déclarée à la question de la propriété en exigeant la libre jouissance commune des terres. Au-delà des champs que les paysans étaient tenus d'exploiter pour assurer leur subsistance, et surtout celle des possédants, s'étendaient des pâturages, des forêts, des montagnes et des rivières. Même si ceux-ci étaient inclus dans tel ou tel type de propriété d'un grand, les paysans les considéraient comme une sorte de domaine public où tous pouvaient amener paître leurs bêtes, chasser et pêcher, pour améliorer l'ordinaire. Cette question pouvait faire l'objet d'une tolérance de la part du seigneur. Elle pouvait aussi, dans le cas contraire, faire l'objet d'une révolte de la part des paysans. Les querelles sur l'accès aux communaux se poursuivirent durant le Moyen-Âge pour s'aggraver à partir du XIXe siècle, quand les maîtres du sol eurent fixé un prix à toute chose. Les exigences sur l'accès libre à toutes les ressources naturelles allaient figurer sur une bonne place dans les revendications des révoltés de 1381 en Angleterre et de 1525 en Allemagne. Le bas Moyen-Âge vit se multiplier les conflits portant sur le libre accès à ce qui restait encore à la disposition des communautés paysannes. L'idée d'une administration et d'un contrôle des communaux et des droits d'usage avait animé plusieurs mouvements communalistes dans les campagnes au XIIe et XIIIe siècle. La marchandisation des communaux fut en effet source de multiples conflits qui vont marquer la première comme la deuxième phase d'embocagement. L'histoire que nous voulons conter est celle du mouvement insurrectionnel pour la défense des communaux. Un mouvement qui se manifestait jadis par les gestes collectifs d'autodéfense territoriale contre l'embocagement. Arrachage de clôtures, de haies, destruction de bornes, de talus, occupation de parcelles, incendies, menaces, pillages et destruction de documents officiels, actes de guérilla en tout genre.
Cela est relaté à nouveau par Jean-Nicolas dans la Rébellion française.
À la fin du mois de juin 1785, les habitants de Couëron et des alentours s'attroupent en foule, avec des fusils, des faux et des bâtons, pour couper les foins et conduire leurs bestiaux dans les pâturages contestés. Ils disent agir de la part du roi et de Dieu. Ils invoquent la sécheresse, les sauterelles et le déficit en fourrage, et surtout les seigneurs qui veulent les réduire à la misère en les privant de leur commune. Les esprits s'échauffent, et comme d'autres paroisses semblent disposées à les rejoindre, le Parlement de Bretagne publie un arrêt contre tous ceux qui lèveraient de la même façon l'étendard de la révolte. Comme la maréchaussée, venue sur place, a été maltraitée, on leur envoie 200 soldats, avec toutes les brigades des environs. Le calme se rétablit à la vue des baïonnettes vers la mi-juillet, après quelques arrestations, dont celle d'un leader reconnu, un certain Rondeau, qui proclame devant le sénéchal les droits des habitants, mais nie les faits graves dont il est accusé. Tout recommence un an plus tard, dans les mêmes paroisses, quand un huissier, suivi d'une vingtaine de gendarmes, vient confisquer les bêtes à cornes qui champoyaient une fois de plus sur les prés litigieux. Il se heurte à plus de 100 personnes menaçantes, criant à pleine voix que les bestiaux ne passeraient qu'après leur avoir ôté la vie. Au-delà de ces soulèvements locaux, outre-Manche, presque un siècle plus tôt, un autre épisode du mouvement insurrectionnel pour la défense des communaux résonne tout particulièrement sur la ZAD, celui des Diggers. Les Diggers, c'est un mouvement collectif de réappropriation des communaux qui mêlait squats, et culture collective. Les diggers, en français bêcheux, sont ceux qui défrichèrent les terres vagues pour les cultiver collectivement.
Un nouvel extrait de l'incendie millénariste apporte des précisions sur le mouvement des diggers anglais.
C'est en avril 1649 que se créa la première commune de bêcheux. Celle-ci se développa sur la colline Saint-Georges, aux alentours immédiats de Londres. Un groupe de paysans pauvres avait entrepris de bêcher les friches, ce qui signifiait qu'ils prenaient possession des terres communales. Les propriétaires terriens de la région organisèrent des expéditions punitives qui aboutirent en 1650 à la disparition de la commune. Mais le mouvement était lancé, et les communes de bêcheux s'étendirent dans tout le centre et le nord de l'Angleterre pendant les années 1650. Les bêcheux furent aussi désignés comme niveleurs par leurs ennemis qui les accusaient, à juste titre, de vouloir niveler la propriété. Si le souci le plus immédiat était d'occuper les communaux, l'exigence plus générale d'égalité des biens fut aussi avancée. Le manque de terres était une obsession des paysans pauvres. Ils ne pouvaient pas concevoir une forme d'émancipation qui ne passe pas par la redistribution des terres. L'importance des communaux à l'époque, c'est-à-dire de la part collective de la terre, pousser les paysans à une exploitation commune des sols.
Localement, cette pratique du défrichage collectif existait aussi dans les landes communales du canton de Blain où, d'après Louis Bizol, le défrichement d'une parcelle est nommé un béchi et se fait collectivement avec l'aide de 30 à 40 voisins qui travaillent en chantant et qu'on régale d'un veau gras et d'une barrique de cidre. L'opération présente un caractère festif et gratuit. Ces récits de bêcheux donnent sens à une multitude de souvenirs récents. De nouvelles pratiques d'occupation agricole non salariale se déploient dans un monde où il ne reste presque plus de communaux à défendre, mais tant d'espaces marchandisés à reconquérir, de friches urbaines ou rurales à occuper, à communiser. Les communaux, aujourd'hui comme hier, ce sont les territoires que nous arrachons au pouvoir. Et il y a quelque chose de l'esprit des bêcheux qui nous traverse aujourd'hui. De la manifestation de défrichage du sabot à celle du jardin des prairies à Rennes, outils agricoles en main, du jardin maraîcher du quartier libre des Lentillères à Dijon à celui du Vieux Doulon à Nantes, ces occupations urbaines qui viennent parasiter les projets métropolitains d'écoquartiers, du jardin des Utopies, un probable potager pirate dans les espaces verts de l'université de Grenoble, à la culture collective de patates pour conjurer la construction d'une maxi-prison à Bruxelles. Pour les diggers de la colline Saint-Georges, comme pour nombre de mouvements contre l'accaparement des communaux au Moyen-Âge, l'extension du régime de propriété foncière à l'ensemble du territoire était antagoniste à leur forme de vie, à leur rapport au monde et à leurs imaginaires. Ce qui animait ces révoltes de jadis, c'était le mythe d'un âge d'or qui cristallisait à la fois l'idéal d'une époque originelle, durant laquelle la terre aurait appartenu à tous, et l'horizon d'un âge à venir où la terre redeviendrait un bien commun.
Mais le retour de l'âge d'or passe par l'insurrection immédiate, comme en témoigne le roman de Roux, récit en vers de l'insurrection normande de 996 pour la défense des terres communales. Alors accrochez-vous. Allons-nous par un serment, nous et nos biens défendons, et tous ensemble nous tenons. Et si nous veulent guerroyer, bien avons contre un chevalier 30 ou 40 paysans maniables et combattants. Car eux, seigneur, il en cuira, si 20 ou 30 forts à bras, qui seuls ne s'en pourraient défendre, se réunissent pour le prendre. À coups de massues et de pieux, de flèches, de bâtons, d'épieux, haches, avons arcs et grisames, et des pierres pour qui n'a pas d'armes, grâce au nombre que nous avons, des chevaliers nous défendront, ainsi pourront aller au bois, prendre des arbres à notre choix, au vivier prendre les poissons, dans les forêts la venaison, de tout ferons nos volontés, dans les bois, les eaux, les prés. Dans ces mouvements, les gestes d'autodéfense territoriale cristallisent une aspiration plus générale à un bouleversement total du monde. Bêcher illégalement une terre pour la communiser, détruire une haie plantée par un seigneur, c'est s'organiser pour façonner le territoire de manière autonome et enrayer sa marchandisation.
Une nouvelle fois, Jean-Nicolas raconte quelques de ces éléments des révoltes paysannes contre leur seigneur dans son ouvrage La Rébellion française.
Dans les Flandres et le Cambrésy, les abus du droit de plantis provoquaient de spectaculaires ripostes comme à Beuvry-la-Forêt, où plus de 1500 arbres furent renversés nuitamment en avril 1740 et replantés racine en haut, insulte d'une rare insolence et dénoncée comme telle par les moines de Marchienne, seigneur du lieu. En Savoie, le marquis d'Yenne vivait fort mal avec les habitants de sa terre qui faisaient pâturer en temps prohibé sur les parcelles appropriées en dépit des décisions de justice. Après une cascade d'incidents, un tumulte finit par éclater au matin du 3 mai 1755. Les habitants des Basses-Saumons ont décidé de célébrer à leur façon la fête de la Sainte-Croix, jour ordinaire auquel tous les bergers s'assemblent chaque année et font des réjouissances. Ils ont envoyé du bétail, en nombre, dans un certain pré marécageux où le marquis faisait justement creuser des fossés. Les hommes du château arrivèrent avec des fusils et s'emparèrent de quelques bêtes pour les mener à la géole. Dans l'instant, aux côtés des bergers, surgit une foule considérable, au moins 150 individus, les uns venus du hameau voisin, les autres sortis de la procession qui passait non loin. Ils marchèrent sur les gens du Seigneur, pierres en main, fourches et bâtons levés, tous en furie, écumant de rage, ils les menacent de les coucher dans le grand fossé qui leur servirait de cimetière. Ils crient encore que les arrêts du Sénat sont supposés qu'on veut leur faire perdre leur possession. Ce jour-là, les habitants restent maîtres du terrain, et c'est grande joie, on danse, on vide chopine, on mange des omelettes. Lues aujourd'hui, ces histoires peuvent paraître invraisemblables. Une émeute contre un fossé, des affrontements armés pour faire pâturer des bêtes, c'est certainement parce qu'il est difficile de se représenter l'ampleur de la configuration permanente du territoire par le pouvoir, sa logistique, ses infrastructures et ses dispositifs. Et surtout, de se représenter ses conséquences sur les formes de vie, sur l'existence comme sur les subsistances des habitants. Certains historiens évaluent que les landes et les marais représentaient un tiers de la surface de la France en 1768. Aujourd'hui, on estime la surface des zones humides, tourbières exclues, à 4,6% de la surface du territoire, une estimation donc qui date de 2000. Mais l'aliénation ne se mesure pas en hectares de terre accaparés hier ou bétonnés aujourd'hui. Hier comme aujourd'hui, ce ne sont pas juste des marais qu'on assèche, ce sont des territoires et des formes de vie qui y sont attachées, provoquant déracinement, exode et dépossession. Entre marchandisation et communisation du territoire s'affrontent deux rapports au monde. L'un, instrumental, fonctionnaliste, ne voit que ressources, terres vierges à exploiter, mise en valeur, expansion coloniale. Le territoire y est perçu et construit comme désert pour être aménagé. L'autre, communiste, façonné par les usages collectifs, peuplé par des souvenirs et marqué par des rites, construit le territoire comme un monde habité.
Nous n'habitons pas un désert, affirment certains habitants de Notre-Dame-des-Landes suite à une émission de la télévision régionale sur le décret de la ZAD en 1974. Paradoxalement, la guerre territoriale qui se manifestait auparavant sous la forme d'actions collectives pour enrayer l'embocagement et défendre les communaux se prolonge aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes dans une lutte pour la défense du bocage comme bien commun. Ainsi, dans le bocage nantais, les arrachages sauvages de haies de jadis et les plantations collectives de haies aujourd'hui sont la manifestation d'un même mouvement d'autodéfense territoriale, même si a priori ces gestes peuvent paraître complètement opposés. Le 5 octobre 2013, à Notre-Dame-des-Landes, pendant des semi-collectifs organisés par l'ADECA, Copain et SEMTAZAD, sur l'emplacement des pistes du projet d'aéroport, on vit une foule joyeuse pailler des talus préalablement tracés à la charrue forestière, creuser des fossés, planter des arbres, tandis qu'autour s'agitaient des dizaines de tracteurs qui semaient notamment des céréales pour la boulangerie de la ZAN et pour nourrir des bêtes sur la zone.
À la fois action d'entrave aux travaux et communisation effective de 24 hectares de terre, cette journée bêcheuse était un geste de défi face aux aménageurs. Et cela l'avait d'ailleurs bien saisi, au point de promulguer un arrêté préfectoral absurde interdisant les semis sur la ZAD. Ce n'est donc pas le fait de planter une haie en soi qui est un acte subversif parce que supposément écologique. Ce qui importe, ce n'est pas le bilan carbone de cette action collective, son impact comptable sur un environnement quantifié au point d'être représenté comme une vulgaire banque de ressources. Ce qui, selon nous, fait la charge subversive de cette journée, c'est le commande d'un geste qui résiste ou qui participe de l'aménagement capitaliste du territoire, qui communise ou qui marchandise le territoire. Si l'embocagement fut un motif de révolte, si le projet d'aéroport se heurte aujourd'hui à une telle résistance, c'est que la configuration de l'espace physique est l'objet d'une guerre territoriale. Tout remaniement de l'espace est un motif de conflit. Ces conflits émaillent les siècles passés comme ils attisent aujourd'hui de multiples foyers de résistance dans et contre la métropole. La marchandisation des communaux s'approfondit encore aujourd'hui, conquérant des espaces insoupçonnés dont il eût été indispensable auparavant qu'ils puissent faire l'objet d'un commerce, comme en témoigne par exemple le brevetage du vivant.
Le mouvement insurrectionnel pour la défense des communaux fait partie de la genèse de ce bocage. C'est aujourd'hui un repère pour prendre part à la guerre territoriale contemporaine, car c'est en grande partie en réaction à ce mouvement que s'est constituée la forme contemporaine de la propriété foncière. En effet, aux côtés du clergé et de la noblesse, le pouvoir économique prit une part décisive dans les processus d'embocagement. Au XVIIIe siècle, les physiocrates, premiers économistes libéraux, défendaient ardemment la valorisation des terres réputées ingrates, prenant parti dans la guerre contre les communes villageoises. L'objectif était d'augmenter les surplus et la plus-value agricole pour favoriser l'industrialisation et l'urbanisation. Le capitalisme démocratique moderne ne put se construire qu'à partir de l'anéantissement des communaux. Le clergé, la bourgeoisie et la noblesse se menaient, sur de multiples fronts, une guerre sans merci pour l'hégémonie. Comme dans toute oligarchie gouvernementale, les décisions stratégiques sont elles-mêmes le produit d'un rapport de force entre différentes composantes de l'ordre établi. Et sur la question de la destruction des communaux, les intérêts de toutes ces composantes convergeaient, si bien qu'en dépit de leur diversité, toutes y participèrent activement.
La Révolution française, si elle fut en grande partie la conséquence d'un vaste mouvement insurrectionnel dans les campagnes, marque paradoxalement une accélération de la marchandisation des communaux. Elle est d'abord une révolution bourgeoise. Mais cette grande lutte du tiers-État contre les privilèges a coïncidé avec l'explosion d'une révolution paysanne largement autonome. Dans les communes villageoises, la rédaction des cahiers de doléances exprime de multiples motifs de révolte, contre les corvées, les servitudes, la pression fiscale, les privilèges. Mais l'aspiration au communisme, à la libre jouissance commune des terres, est niée par les pouvoirs républicains qui cherchent à neutraliser le mouvement insurrectionnel pour la défense des communaux. Un mouvement dont la puissance a destitué l'ancien régime, mais qui n'a pas su conjurer l'institution d'un nouvel ordre.
Hervé Luxardo nous explique dans son livre « Les paysans, les républiques villageoises, 10e-19e siècle » comment les cahiers de doléances ont matérialisé nombre de revendications paysannes pour la défense des terres communisées.
Rédigés pour la plupart par les notables du cru, les cahiers de doléances ne portent que rarement les plaintes des habitants les plus pauvres. Mais sous la pression populaire, les rédacteurs ne peuvent qu'enregistrer les demandes de droits d'usage ainsi que les revendications sur les biens communaux. En Picardie, les trois villages de Quérieux, Guyancourt et Oresmeau demandent que les pâtures dans les forêts et les bois de réserve soient libres lorsqu'ils auront 8 ans et que l'on ne détruise aucun bien communaux. À Eutrégiville, dans les confins de Reims, où les petits paysans ont écrit le cahier, le fermier seigneurial est sommé, s'il veut jouir de la douceur des pâtures du terroir, d'autoriser le troupeau communal à pénétrer sur les prairies après la première dépouille. Dans l'arrondissement de Rouen, 10 communautés demandent la suppression des redevances sur les pâtis communs établis par les fermiers seigneuriaux. À Fleury-sur-Andelle, les paysans requièrent la libre disposition des terres incultes. Plus près de nous, à Faille de Bretagne, à quelques kilomètres à peine du bocage de Notre-Dame-des-Landes, les habitants, dans leur cahier de doléances, demandent qu'on ne soit plus obligé de payer les rentes pour les biens communs et qu'ils ne soient plus disposés de ces mêmes biens que par un commun consentement. Face à ces aspirations, le pouvoir républicain va trouver une parade qui reste aujourd'hui encore le fondement de l'ordre territorial contemporain, articulé comme l'ordre impérial de la Rome antique autour de la figure du citoyen propriétaire. Le triomphe de l'individualisme, la sacralisation de la propriété privée que portait en elle la Révolution française, fit que la République combattit les communaux d'une manière bien plus pernicieuse et bien plus redoutable que ne l'avaient jamais fait le clergé et la noblesse sous l'Ancien Régime. L'ordre républicain est un ordre centralisé qui nie toute forme de vie collective en dehors de la nation et de l'individu. C'est un ordre qui sape la commune villageoise. De l'intérieur en l'atomisant en individu et de l'extérieur en l'annexant au pouvoir d'un État centralisé. Cette soumission ne signifie pas la destruction de la communauté villageoise en tant que groupe social et système économique, mais sa disparition en tant qu'organisation politique autonome. La commune villageoise, jadis fondée sur la commune possession du sol, sur les usages collectifs du territoire, devient une communauté tenue uniquement par des liens de parenté, des traditions et des échanges économiques. La stratégie subtile du pouvoir républicain consiste à détruire les droits d'usage collectif en divisant ce qui était commun en différents fragments individuels. Le partage des biens communaux se fera par tête d'habitant domicilié, proclame le décret révolutionnaire de 1793. Le critère de domination servait à exclure du partage toute une population pauvre, mouvante, vagabonde, ballottée de travaux saisonniers en exode rural, au gré des impératifs de la production-circulation de la marchandise. À Notre-Dame-des-Landes, le partage des landes communales a eu lieu presque un siècle après la Révolution française. La commune de Notre-Dame-des-Landes n'a été constituée qu'en 1871 par démembrement de celle de Faye-de-Bretagne et d'Éric.
Une nouvelle citation de François de Beaulieu, dans l'usage des communs à Notre-Dame-des-Landes, d'hier à aujourd'hui, vient préciser cet aspect. Les besoins de la commune augmentant, et chacun pouvant avoir sa part ou sa miette dans le cadre des partages qui sont doucement engagés, les landes communales sont démembrées entre 1837 et 1850. À Éric, c'est en 1838 que s'est fait le partage des landes des Grands Mortiers. Malgré le coût de l'enquête fastidieuse, où chacun apporte son témoignage sur ce qu'a connu son grand-père et recherche sur le terrain les marques d'une limite, arbres, mares ou chemins, dans de nombreux cas, on pourra fixer le nouvel état des lieux dans le premier cadastre communal. Ce principe d'une répartition individuelle des biens communs est un outil majeur du démantèlement des communes villageoises. À partir de là, les communautés soit se dressent unanimement contre cette solution, soit se divisèrent et arbitrèrent en ordre dispersé, initiant un partage ici, le refusant ailleurs. C'est le Code civil napoléonien qui formalise juridiquement ce nouveau rapport au territoire, une conception de la propriété sous le régime de laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Conception qu'un ancien ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani, résume ainsi. Moyennant l'ouverture à tous du droit de propriété, il assure à quelques-uns l'essentiel de la propriété et du pouvoir avec le concours de tous. La propriété privée et le vote, le citoyen et le propriétaire, le capitalisme et la démocratie, pour nous qui furent jetés là, dans un monde régi par ces principes, l'hypothèse communiste nécessite une rupture avec tout ce qui cherche à nous réduire à un malléable agrégat d'individus. Pour nous qui habitons à la lisière du bocage et de la métropole, les communaux ne correspondent pas à un communisme primitif, à un quelconque stade du monde avant sa marchandisation, mais à une manière d'habiter ici et maintenant le mouvement perpétuel de la guerre territoriale. Les communaux, c'est un enjeu contemporain. Explorer les plis, les multiples zones de contact entre passé et présent, raconter un conflit toujours à l'œuvre aujourd'hui entre, d'une part, un processus de privatisation et de marchandisation de l'ensemble du territoire, terre, mer, ciel, sous-sol, et d'autre part, un mouvement d'autodéfense territoriale, une multitude de tentatives insurrectionnelles pour la communisation du territoire. La marchandisation des communaux est un processus chaotique, rythmé par des insurrections, des guerres, des révolutions. C'est l'une des facettes de la guerre entre état de droit et coutume, propriété privée et usage collectif, empires et communes. Une guerre jamais achevée, qui se joue et se rejoue sans cesse de manière toujours singulière, en de multiples points de l'espace et du temps. Alors vont suivre deux citations, la première tirée d'une pétition pour le respect des usages existants dans la vallée de la Ramade, publiée dans un petit bouquin qui s'intitule « Du côté de la Ramade, 93-2002 ». La seconde citation provient, elle, de la déclaration de l'Assemblée populaire du peuple Juchitèque, composée d'étudiants, de paysans, de mères au foyer, de pêcheurs libres, d'ouvriers, d'enfants, de jeunes et d'anciens, et qui est datée du 24 février 2013.
Depuis la nuit des temps, dans la vallée de la Ramade, les habitants et les voisins des villages alentours vont à la pêche ou à la chasse, mènent des troupeaux, fanent, tirent du bois, font la cueillette des champignons, etc. Depuis la vente du domaine de Raboulet, dont les 200 hectares s'étendent sur les communes de Langeac, Aubaza et Férussac, un nouveau type d'activité menace. Il ne s'agit plus d'habiter et de vivre, l'heure serait aux loisirs haut de gamme. Hébergement de luxe, chasse privée, plomb d'eau sur la ramade, goudronnage du chemin forestier. Ce projet de prestige et de spéculation est incompatible avec les habitudes de la vallée. Il rend impossible tout ce qui jusqu'ici fait de cette vallée ce qu'elle est. Nous demandons le respect des usages existants dans la vallée de la ramade, chasse et pêche publique, maintien du cours de la ramade sur son lit, parcours du troupeau, promenade pédestre et équestre, cueillette des champignons.
Donc voici la deuxième citation qui est issue de la déclaration de l'Assemblée populaire du peuple juchitèque. Nous, les Bininza, on nous dénomme aussi les Apothèques, nous sommes préoccupés face à l'invasion de notre territoire qui comprend un espace de 68 000 hectares de terres communales par les dirigeants politiques, les caciques et principalement les entreprises éoliennes étrangères avec la complicité de l'État mexicain. Les entreprises transnationales ont fait des protocoles sur les terres pour que les titres de propriété soient accordés aux envahisseurs, malgré le fait qu'officiellement la propriété de la terre de Juchitán est de régime communal. Nous ne permettrons pas que sur nos terres communales soient construits des parcs éoliens, vu que c'est notre espace vital où nous cherchons la subsistance de nos familles et nous défendons la vie et la communauté de notre nation zapothèque. Nous sommes en quête de territoire où vivre la commune et l'éprouver comme possible ici et maintenant. Nous avons besoin de rêves et de repères, d'armes et de légendes, d'amitié et d'imagination, pour nous déprendre d'un maillage gouvernemental qui ne cesse de se renforcer, de se resserrer, de se densifier et de contenir, avec un raffinement sans cesse renouvelé, les moindres espaces d'autonomie. La ligne de front entre territorialité communiste et colonisation métropolitaine est diffuse. Cette ligne ne peut être tracée avec précision dans la mesure où elle traverse de part en part chaque point de l'espace, chaque situation, chaque être. Nous habitons cette ligne en funambule.
S'il existe aujourd'hui une guerre entre les territorialités communistes et l'approfondissement du désert métropolitain, c'est que le développement du capitalisme implique la conquête de la totalité des territoires, fussent-ils imaginaires, la maîtrise de la totalité de l'espace et du temps. Les dispositifs permettant de tenir le territoire, de le quadriller, de le contrôler, ne cessent de se perfectionner. C'est la fermeture de la carte, processus par lequel, du tracé des frontières à celle du cadastre, la moindre parcelle de terre devient propriété privée et espace gouverné.
Petite citation tirée d'un texte de Hakim Bey, zone d'autonomie temporaire, plus communément appelée TAZ. La dernière parcelle de terre n'appartenant à aucun État-nation fut absorbée en 1899. Notre siècle est le premier sans terra incognita. La nationalité est le principe suprême qui gouverne le monde. Pas un récif des mers du Sud, pas une vallée lointaine, ni même la Lune et les planètes ne peut être laissée ouverte. C'est l'apothéose du gangstérisme territorial. Pas un centimètre sur terre qui ne soit taxé et policé, en théorie.
Effectivement, en théorie, c'est-à-dire en droit, et donc en apparence, l'entièreté de l'espace est soumise à la propriété privée et à l'appareil d'État, qui a pour fonction de le défendre. Partout autour de nous, nous ne voyons que le désert pacifié de la métropole. Mais dans l'opacité se déchaîne une guerre. Cette guerre a pour théâtre les angles morts de la surveillance panoptique, les brèches de la gouvernementalité, les friches urbaines ou rurales, les terrains vagues. Chaque parcelle occupée, chaque maison squattée, chaque quartier qui s'organise, chaque hall d'immeuble où l'on cesse de ne faire que passer, chaque lieu où les usages s'imposent à la propriété, à quelque chose des communaux.
Avant de s'acheminer vers la conclusion, une dernière citation qui est tirée de L'Appel, un texte qui a visiblement précédé l'écriture de L'insurrection qui vient.
Une chose m'est propre dans la mesure où elle rentre dans le domaine de mes usages et non en vertu de chaque titre juridique. La propriété légale n'a d'autre réalité en fin de compte que les forces qui la protègent. La question du communisme est donc d'un côté de supprimer la police et de l'autre d'élaborer entre ceux qui vivent ensemble des modes de partage, des usages. La ZAD, c'est un peu l'espace en jachère de la métropole, l'équivalent contemporain des terres vaines et vagues. À l'image de ces milliers d'immeubles, de maisons et de terrains libres d'usage qui attendent la signature dont on ne sait quel contrat, le feu vert dont on ne sait quelle institution, la désignation dont on ne sait quel promoteur pour retrouver une fonction dans le capitalisme, alors que peut s'y déployer dès maintenant une multitude d'usages communs. En retraçant la genèse du bocage, en exploitant le passé de ces landes, nous cherchons ce quelque chose ici sur la ZAD, où s'éprouvent de nouvelles formes de vie, où se pose en pratique la question de la communisation des terres. Cette communisation implique un art de guerre territoriale, une manière d'habiter, de peupler et de tenir le territoire, de trouer l'espace de la souveraineté, de rendre plus lâches les mailles de la gouvernementalité, de percer la toile des dispositifs de l'Empire, de se déprendre des liens de la dépossession qui nous en sert pour construire d'authentiques attachements au monde, aux territoires et aux êtres.
Voilà, donc on espère que l'écoute de cette lecture n'a pas été trop fastidieuse et qu'il vous reste quelques neurones pour embrayer sur le Kenu Info. Si toutefois vous souhaitez réécouter cet enregistrement, nous vous invitons à consulter le blog de l'émission et télécharger donc cette lecture sur donc http://blogs.radiocanu.org/lutte-paysanne/. On se retrouve dans 2 semaines dans Les paysans et les paysannes dans la lutte des classes.
Bakarra, ez ezagun bihurtu bandera honekin ez gaitezen ariñeak izan.